Émile Gaboriau, La corde au cou. Troisième partie, Cocoleu. Chapitre 1. Ainsi, M. Galpin d'Aveline l'emportait et M. Dulot de la Grancière avait lieu d'être fier de son éloquence. Jacques de Boiscoran était déclaré coupable. Mais c'est le front haut et le regard assuré qu'il entendit M. le président Domini prononcer la terrible formule « Plus courageux en cela mille fois que le condamné à mort qui, en face du peloton d'exécution, refuse de se laisser bander les yeux et d'une voix ferme commande le feu. » Le matin même, quelques instants avant l'ouverture de l'audience, il avait dit à Mademoiselle de Chandoré « Je sais ce qui m'attend, mais je suis innocent. On ne me verra ni pâlir ni demander grâce. » Et rassemblant, en effet, en un suprême effort tout ce qu'une âme humaine peut fournir d'énergie, il avait tenu parole. Se penchant seulement vers ses défenseurs, au moment où les derniers mots du président s'éteignaient dans le brouhaha soudain de l'assemblée, « Ne vous avais-je pas dit, murmura-t-il, qu'un jour viendrait où vous seriez les premiers à me mettre une arme entre les mains ?» Maître Folga se dressa vivement. Il n'avait rien de la colère ni du découragement de l'avocat qui vient de perdre une cause qu'il sait juste. « Mais ce jour n'est pas venu, répondit-il. Vous savez votre serment. Tant qu'une lueur d'espoir nous restera, nous lutterons. Or, c'est plus que de l'espoir que nous avons à cette heure. Avant un mois, avant une semaine, demain peut-être, nous aurons notre revanche. » Le malheureux hochait la tête. « Je n'en aurais pas moins subi l'ignominie d'une condamnation, » murmura-t-il. Et, détachant de sa boutonnière le ruban de la Légion d'honneur et le tendant à Maître Folga, « Vous le garderez en mémoire de moi, » prononça-t-il, « si je ne reconquiers pas le droit de le porter. » Mais déjà, les gendarmes chargés de la surveillance de l'accusé s'étaient levés. « Il faut venir, monsieur, » dit à Jacques le brigadier. « Allons, venez !» Et il ne faut pas vous désespérer, que diable, ni perdre courage. Tout n'est pas fini, vous avez encore le pourvoi et le recours en grâce, sans compter ce qui peut arriver et qu'on ne prévoit pas. » Maître Folga pouvait accompagner son client et il se préparait à le suivre. Mais lui, « Laissez-moi seul, mon ami, » fit-il avec un geste douloureux. « D'autres plus que moi ont besoin de vos encouragements. Denise, ma pauvre mère, mon père. Voyez-les. « Dites-leur que c'est leur cher souvenir qui fait l'horreur de ma condamnation, qu'ils me pardonnent l'affliction dont je leur suis le sujet et la honte de m'avoir pour fils, pour fiancé. » Étreignant alors les mains de ses défenseurs, « Et vous, mes amis, ajouta-t-il, comment vous témoignez jamais l'étendue de ma reconnaissance ? Ah, s'il eût suffi pour me sauver d'un talent incomparable et du plus admirable dévouement, je serais libre. Et, au lieu de cela, » il montra la petite porte par où il allait se retirer, et d'un accent déchirant, « C'est la porte du bagne !» s'écria-t-il. « C'est désormais !» Un sanglot lui coupa la parole. Ses forces étaient à bout, car s'il n'est pas de limite, pour ainsi dire, aux tortures que peut endurer l'âme, l'énergie physique a des bornes. Et repoussant le bras que lui offrait le brigadier de gendarmerie, il s'élança dehors. Maître Magloire était comme fou de douleur. « Et n'avoir pas pu le sauver, » dit-il à son jeune confrère. « Qu'on vienne donc encore me parler de la puissance de la conviction. Mais ne restons pas là, sortons. » Et ils se jetèrent dans la foule qui s'écoulait lentement, toute palpitante encore des émotions de la journée. Un revirement étrange, illogique, et cependant expliqué et fréquemment observé en pareilles circonstances, se produisait déjà. Objet de l'exécration de tous, alors qu'il n'était qu'accusé, Jacques de Boiscoran condamné recouvrait toutes les sympathies. C'était comme si la sentence fatale eût effacé l'horreur du forfait. On le plaignait, on s'apitoyait sur son sort, et songeant à sa famille, à sa mère, à sa fiancée, on maudissait la sévérité des juges. C'est que les moins clairvoyants des assistants avaient été frappés de l'allure singulière des débats. Il n'en était presque pas un qui n'eût deviné en cette affaire tout un côté mystérieux et inexploré que l'accusation, aussi bien que la défense, avait évité d'aborder. Comment n'avait-il été que fort incidemment question de Cocoleu ? Il était idiot, c'était entendu, mais il n'en était pas moins vrai que sa déposition seule avait mis la justice sur les traces de M. de Boiscoran. Pourquoi donc n'avait-il été cité ni par le ministère public, ni par les avocats ? La déposition de M. de Clodieuse, qui avait paru si concluante sur le moment, était maintenant sévèrement commentée. Les plus indulgents disaient « C'est mal ce qu'il a fait là, c'est un coup de maître, que ne parlait-il plus tôt ? On n'attend pas qu'un homme soit perdu pour le frapper. » À quoi d'autres répondaient « Et avez-vous vu de quel regard se mesuraient le comte et M. de Boiscourant ? Avez-vous remarqué les paroles qu'ils échangeaient ? N'eût-on pas juré qu'il était question entre eux de toute autre chose que du procès ?» Et de tous côtés, « C'est égal, répétait-on, maître Folga avait raison, cette affaire est loin d'être claire. » Les jurés hésitaient. Peut-être M. de Boiscourant eût-il été acquitté si, au dernier moment, M. du Lot de la Grancière ne fût venu dire que le comte de Clodieuse agonisait dans la pièce voisine. C'est avec une joie bien vive que maître Magloire et maître Folga recueillaient ces impressions de la foule. Car le ministère public a beau dire, beau tonner contre cette tendance funeste, beau affirmer que nul bruit du dehors ne trouve un écho dans le sanctuaire de la justice, ce sera toujours l'opinion publique qui dictera le verdict des jurés. Et désormais, soufflait maître Magloire à l'oreille de son jeune confrère, soyez sans inquiétude. Je sais mon sauve-terre par cœur. L'opinion est pour nous. À force de jouer des coudes, il venait enfin de franchir l'étroite porte de la salle des assises quand un huissier les arrêta. « On vous demande, monsieur, leur dit cet homme. Qui ? Les parents du condamné. Pauvres gens, ils sont tous là, dans le cabinet de M. Méchinet, que M. Daubigeon nous avait dit de mettre à leur disposition. C'est même là qu'on a porté Mme la marquise de Boiscourant lorsqu'elle s'est trouvée mal à l'audience. » Il entraînait, tout en disant cela, les défenseurs jusqu'à l'extrémité de la salle des pas perdus, leur ouvrant alors une porte. Là, sur un fauteuil, les paupières closes, la bouche entr'ouverte, gisait la mère de Jacques. À sa pâleur livide, à la roideur de son attitude, on eût pu la croire morte, sans les spasmes qui, de moment en moment, la secouaient de la nuque au talon. Debout de chaque côté du fauteuil, M. de Chandoré et le marquis de Boiscourant la considéraient d'un œil morne, sans expression, sans chaleur. Ils avaient été foudroyés et, depuis le moment où avait retenti à leurs oreilles la condamnation fatale, ils n'avaient pas échangé une parole. Seule Mademoiselle Denise paraissait avoir conservé la faculté de raisonner et de se mouvoir. Mais sa face était pourpre, ses yeux secs brillaient de l'éclat sinistre de la fièvre, tout son corps tremblait. Dès que les deux défenseurs parurent, « Voilà donc la justice humaine » s'écria-t-elle. Et comme il se taisait, « Voilà donc Jacques condamné au bagne, » poursuivit-elle, « c'est-à-dire de par la justice, déshonoré, flétri, perdu, retranché à jamais du monde des gens d'honneur. Il est innocent, mais peu importe. Ses meilleurs amis vont le renier et se détourner de lui. Nulle main ne se tendra plus vers la sienne. » Ceux-là même qui étaient le plus fiers de son affection affecteront d'avoir oublié son nom. « Je ne comprends que trop votre douleur, mademoiselle, » commença maître Magloire. « Ma douleur est moins grande que ma colère, » interrompit-elle. « Il faut que Jacques soit vengé, et il le sera. Je n'ai que 20 ans, il n'en a pas 30, c'est toute une longue vie que nous avons à consacrer à l'heure de sa réhabilitation. Car je ne l'abandonnerai pas, moi. » Son malheur immérité me le fait plus cher 1000 fois et comme sacré. J'étais sa fiancée ce matin, je suis sa femme ce soir. Sa condamnation a été notre bénédiction nuptiale. Et s'il est vrai, ainsi que le dit mon grand-père, que la loi défend au forçat d'épouser la femme qu'il aime, eh bien, je serai sa maîtresse. » C'est d'une voix éclatante que parlait Mademoiselle Denise, disant qu'elle eût voulu, qu'elle eût été fière que toute la terre l'entendît. « Ah, laissez-moi vous rassurer d'un mot, mademoiselle, » interrompit maître Folga. « Nous n'en sommes pas où vous croyez. La condamnation n'est pas définitive. » Le marquis de Boiscourant et grand-père Chandoré se redressèrent. « Que voulez-vous dire ? Une négligence de M. Galpin d'Aveline frappe de nullité toute la procédure. Comment un homme de sa trempe, si méticuleux et si formaliste, a-t-il pu commettre une telle faute ? C'est que probablement la passion l'aveuglait. Comment personne n'a-t-il remarqué cet oubli ? C'est que la destinée nous devait bien cette revanche. Le cas n'est pas discutable. Il s'agit d'un vice de forme et les textes sont formels. Le jugement sera cassé et nous serons renvoyés devant d'autres juges. »
Et vous ne nous aviez pas dit cela ? S'écria Mademoiselle Denise.
À peine osions-nous y penser, répondit Maître Magloire. C'était là un de ces secrets qu'on ne confie même pas à son oreiller. Songez qu'au cours de l'audience, l'erreur pouvait encore être réparée. Maintenant, il est trop tard. Nous avons du temps devant nous et la conduite de M. de Clodieuse nous dégage. Tous les voiles seront déchirés.
La porte, s'ouvrant avec fracas, lui coupa la parole. Le docteur Saignebeau entrait, rouge de colère et les yeux étincelants sous ses lunettes d'or.
« Monsieur de Clodieuse ?» demanda vivement Maître Folga.
« Il est à côté, répondit le docteur. On l'a étendu sur un matelas et sa femme est près de lui. Quel métier que celui de médecin ! Voilà un homme, un misérable, que j'aurais eu du bonheur à étrangler de mes mains, et pas du tout, il m'a fallu le rappeler à la vie, lui prodiguer mes soins, chercher un moyen d'atténuer ses souffrances. »
« Va-t-il donc mieux ?
À moins d'un de ces miracles, comme on en voit dans la vie des saints, il ne sortira du palais de justice que les pieds les premiers, et ce, avant 24 heures. Je ne l'ai point dissimulé à la comtesse, et je lui ai dit que si elle voulait que son mari mourût en règle avec le ciel, elle n'avait que le temps bien juste d'envoyer chercher un prêtre.
Et elle en a envoyé chercher un ?
Point. Elle a répondu que la vue d'une soutane épouvanterait son mari et hâterait sa fin. Et même le brave curé de Bréchy s'étant présenté, elle l'a congédié carrément.
« Ah, la misérable !» s'écria Mademoiselle Denise.
Et après une seconde de réflexion,
« Pourtant, le salut est là, » poursuivit-elle. « Oui, la certitude du salut. Pourquoi donc hésiter ? Attendez-moi, je reviens. »
Elle s'élança dehors. Son grand-père voulait se précipiter après elle, mais Maître Folga l'arrêta.
« Laissez-la faire, monsieur le baron, dit-il, laissez-la. »
10 heures venaient de sonner. Le palais de justice, si bruyant toute la journée, était redevenu silencieux et morne. Dans l'immense salle des pas perdus, à peine éclairée par un réverbère fumeux, il n'y avait plus que 2 hommes, un prêtre, le curé de Bréchy, qui priait, agenouillé près d'une porte, et le gardien de service qui se promenait de long en large et dont les pas sonnaient comme dans une église.
Mademoiselle Denise alla droit à ce gardien.
« Où est le comte de Clodieuse ? » interrogea-t-elle.
« Là, mademoiselle, répondit l'homme en lui montrant la porte près de laquelle priait le prêtre. Là, dans le propre cabinet de monsieur le procureur de la République. »
« Qui est auprès de lui ?»«
Sa femme, mademoiselle, et une domestique. »«
Eh bien, entrez dire à madame de Clodieuse, et sans que son mari l'entende, que mademoiselle de Chandoré désire lui parler. »
Sans une objection, le gardien obéit. Mais lorsqu'il reparut, « Mademoiselle, dit-il à la jeune fille, la comtesse vous fait répondre qu'elle ne peut quitter son mari, qui est au plus bas. »
Elle l'arrêta d'un geste impérieux.
« Assez ! Retournez dire à madame de Clodieuse que si elle ne sort pas, je vais entrer à l'instant, que j'entrerai de force s'il le faut, que j'appellerai au secours, que rien ne me retiendra. Je veux la voir absolument. »
« Cependant, mademoiselle,
allez, ne voyez-vous donc pas que c'est une question de vie ou de mort ?»
Il y avait dans son accent une telle autorité que le gardien n'hésita plus. Il disparut de nouveau et l'instant d'après,
« Entrez, » revint-il dire à la jeune fille.
Elle entra et se trouvant dans la salle d'attente qui précède le cabinet du procureur de la République. Une grosse lampe de cuivre l'éclairait d'une lumière crue. La porte, ouvrant sur le cabinet où gisait le comte, était fermée. Au milieu de la pièce, la comtesse de Clodieuse se tenait debout. Tant de coups successifs n'avaient pas brisé son indomptable énergie. Elle était horriblement pâle, mais calme.
« Puisque vous y tenez, mademoiselle, commença-t-elle, je viens moi-même vous répéter que je ne saurais vous entendre. Ignorez-vous donc que je suis entre 2 tombes ouvertes, entre ma fille qui se meurt à la maison et mon mari qui agonise là ?»
Elle faisait un mouvement pour se retirer. Mademoiselle de Chandoré la retint d'un geste menaçant et d'une voix frémissante.
« Si vous rentrez dans la pièce où est votre mari, dit-elle, j'y rentre avec vous et ce sera devant lui que je vous parlerai. » C'est devant lui que je vous demanderai comment vous avez défendu à un prêtre l'accès de son lit de mort
Et si, après lui avoir pris son bonheur en ce monde, vous voulez le lui ravir encore dans l'éternité ?» Instinctivement, la comtesse recula.
« Je ne vous comprends pas, » dit-elle.
« Si, vous me comprenez bien, madame, à quoi bon nier ? Ne voyez-vous pas que je sais tout et que j'ai deviné ce qu'on ne m'a pas dit ? Jacques était votre amant et votre mari s'est vengé. »
« Ah, c'en est trop !» répétait madame de Clodieuse. « C'en est trop !»«
Et vous avez souffert cela, » poursuivait mademoiselle Denise en phrase haletante. « Et vous n'êtes pas venu crier en plein tribunal que votre mari est un faux témoin. Quelle femme êtes-vous donc ? Il vous importe donc peu que votre amour conduise un malheureux au bagne ? Vous pourrez donc vivre avec cette idée que l'homme que vous aimez est innocent et cependant a tout jamais flétri et confondu parmi les plus vils scélérats ? Un prêtre saurait bien obtenir de monsieur de Clodieuse qu'il rétractât son infâme déposition, vous le savez bien. Aussi refusez-vous votre porte au curé de Bréchy. Et pourquoi tant de crimes ? Pour sauver votre menteuse réputation d'honnête femme. Ah, c'est misérable, c'est lâche, c'est bas !»
La comtesse, à la fin, se révoltait. Ce que n'avait pu obtenir toute l'habileté de maître Folga, la passion de mademoiselle Denise l'obtenait. Jetant le masque,
« Eh bien non » s'écria-t-elle avec un emportement terrible. « Non, ce n'est pas pour sauver ma réputation que j'ai laissé faire. »« Ma réputation ? Hé, que m'importe ! Il n'y a pas une semaine, le soir où Jacques s'est évadé de la prison, je lui proposais de fuir. Il n'avait qu'un mot à dire, et pour lui, patrie, famille, enfants, j'abandonnais tout. Il m'a répondu « plutôt le bagne ».
Au milieu de tant d'angoisse, une joie immense inonda le cœur de mademoiselle de Chandoré.
Ah, elle n'avait plus à douter de Jacques à cette heure.
C'est donc lui qui s'est condamné, poursuivait madame de Clodieuse. Je voulais bien me perdre pour lui, pour une autre, non.
Et cette autre, c'est moi sans doute.
Oui, vous, pour qui il m'avait abandonné, vous qu'il allait épouser, vous, avec qui il se promettait de longues années de bonheur, non d'un bonheur honteux et furtif tel que le nôtre, mais d'un bonheur légitime et respecté.
Des larmes tremblaient dans les cils de mademoiselle Denise. Elle était aimée. Elle songeait à ce que devait souffrir l'autre, qui ne l'était pas.
« J'aurais cependant été plus généreuse, » murmura-t-elle.
La comtesse eut un éclat de rire farouche.
« Et la preuve, » insista la jeune fille, « c'est que je suis venue vous proposer un marché. »«
Un marché ?»
« Oui, sauvez Jacques, et sur tout ce que j'ai de sacré au monde, je vous jure d'entrer dans un couvent, de disparaître, et que jamais vous n'entendrez prononcer mon nom. »
Une stupeur immense clouait sur place la comtesse de Clodieuse, et c'est d'un regard de doute et de défiance qu'elle examinait mademoiselle de Chandoré. Un tel dévouement lui paraissait trop sublime pour ne pas cacher un piège.
« Vous feriez vraiment cela ? » demanda-t-elle enfin.
« Sans hésiter. »
« Ce serait un grand sacrifice que vous me feriez. »«
À vous, madame, non. À Jacques. »«
Vous l'aimez donc bien ?»«
Assez pour préférer mille fois, s'il me fallait choisir, son bonheur au mien. »« Enseveli au fond d'un couvent, ce me serait une consolation encore de me dire qu'il me doit sa réhabilitation et je souffrirais moins de le savoir à une autre personne que de penser qu'il est innocent et cependant condamné. »
Mais à mesure que la jeune fille affirmait sa sincérité, les sourcils de la comtesse se fronçaient et de fugitives rougeurs montaient à ses joues pâlies. Et de son ironie la plus hautaine,
« C'est admirable » fit-elle.
« Vous daignez m'abandonner, monsieur de Boiscoron.
M'aimera-t-il pour cela ? Vous savez que non et que c'est vous seul qui êtes aimé. L'héroïsme en de telles conditions est facile. Que craignez-vous ? Caché au fond d'un couvent, il ne vous en aimera que plus ardemment et il ne m'en exécrera que davantage, moi.
Il ne saura rien de notre marché.
Et qu'importe, il le devinera si vous ne le lui apprenez pas.
Allez, je sais mon avenir. Voilà 2 ans que j'endure ce supplice sans nom de le sentir peu à peu se détacher de moi. Que n'ai-je pas tenté pour le retenir ? Quelle lâcheté m'ont coûté et quelle bassesse pour le garder un jour de plus ou seulement 1 heure. Tout devait être inutile. Je lui devenais une charge. Il ne m'aimait plus et mon amour lui semblait plus lourd que le boulet qu'en rivera sa chaîne galérien.
Mademoiselle Denise frissonnait.
« C'est horrible » murmura-t-elle.
Horrible, oui, et vrai. Vous semblez confondu, c'est que vous n'en êtes encore qu'à l'aube riante de vos amours. Attendez le soir sombre et vous me comprendrez. Est-ce que notre histoire à toutes n'est pas pareille? J'ai vu Jacques à mes genoux, comme vous le voyez au vôtre. Les serments qu'il vous jure, il me les a jurés de la même voix frémissante de passion et avec les mêmes regards enflammés. Mais j'étais sa maîtresse, pensez-vous, et vous êtes sa fiancée. Qu'importe, que vous a-t-il dit? Qu'il vous aimera éternellement parce que vos amours sont celles que Dieu et les hommes protègent. Il me disait à moi que précisément, parce que nous nous placions au-dessus de l'opinion et des lois, nous serions unis par des liens indissolubles et supérieurs à tout. Vous avez la foi, je l'ai eue. Et la preuve, c'est que je lui ai tout donné, mon honneur et l'honneur des miens, et que j'aurais voulu lui donner plus encore, et que bien des fois, j'ai cherché en moi-même par quel sacrifice immense, inouï, et que nulle femme n'eût encore fait, je pourrais lui prouver combien absolument j'étais à lui. Et être trahi, abandonné, méprisé, descendre de chute en chute jusqu'à ce degré de misère, de devenir l'objet de votre pitié, être tombé si bas que vous osiez venir me proposer de renoncer pour moi à Jacques, ah, c'est à devenir folle de rage. Et je laisserais échapper la vengeance que je tiens, et je serais assez stupide, assez lâche, assez veule, pour me laisser toucher par vos larmes hypocrites, et j'assurerai votre bonheur aux dépens de ma réputation, ah, ne l'espérez pas !» La voix dans sa gorge expirait comme un râle. Elle fit au hasard quelques pas dans la petite salle, puis revenant se planter en face de Mademoiselle de Chandoré, tout près, les yeux dans les yeux de la jeune fille. « Qui vous a conseillé, demanda-t-elle, cette démarche qui est pour moi comme le suprême outrage ?» Glacée d'une indicible horreur, Mademoiselle Denise eut quelque peine à répondre. « Personne, murmura-t-elle. « Maître Folga ?»« Ne sait rien. » »« Et Jacques ?»« Je ne l'ai pas revu. C'est à l'instant que cette idée m'est venue, soudainement, comme une inspiration du ciel. En apprenant par M. Saignebosse que vous aviez repoussé le curé de Bréchy, je me suis dit, voilà le dernier malheur et le plus grand de tous. Si M. de Clodieuse meurt sans s'être rétracté, quoi qu'il advienne, Jacques fut-il réhabilité, toujours un soupçon planera sur lui. Alors je me suis décidé à venir à vous. Ah, cela me coûtait cruellement. Mais j'espérais que je saurais vous émouvoir, que vous seriez touché de la grandeur du sacrifice. » Madame de Clodieuse était émue en effet. Dans le bien comme dans le mal, il n'est point d'âme absolue. Aux accents suppliants de Mademoiselle Denise, elle sentait faiblir ses résolutions. « Le sacrifice serait-il donc si grand ? » dit-elle. Des larmes jaillirent des yeux de la pauvre fille. « Hélas, répondit-elle, c'est ma vie même que je vous offre. Je sens bien que vous n'avez pas longtemps à être jalouse de moi. » Elle fut interrompue par des gémissements qui partaient de la pièce voisine où agonisait le comte de Clodieuse. La comtesse alla entrebâiller la porte et tout de suite « Geneviève !» fit une voix faible et cependant impérieuse. « Geneviève !»« Je suis à vous, mon ami !» répondit la comtesse, « à l'instant !» Et refermant la porte et revenant à Mademoiselle de Chandoré, « Qui me garantit, fit-elle d'un accent bref et dur, qui m'assure que si Jacques était reconnu innocent et réhabilité, vous vous souviendriez de vos promesses ?»« Ah, madame !» s'écria la jeune fille, « sur quoi voulez-vous que je vous jure de disparaître ? Cherchez des garanties, celles que vous exigerez, je vous les donnerai. » Et se laissant glisser à genoux, « Me voilà à vos pieds, poursuivit-elle, suppliante, humiliée, moi que vous accusiez de vouloir vous outrager. Ayez pitié de Jacques. Ah, si vous l'aimiez autant que je l'aime, vous n'hésiteriez pas. » D'un mouvement rapide, Madame de Clodieuse la releva et, lui tenant les mains entre les siennes, durant plus d'une minute, elle la considéra sans parler, l'œil voilé, les lèvres tremblantes, le sein palpitant, jusqu'à ce qu'enfin, d'une voix si profondément altérée qu'à peine elle était distincte, « Que dois-je faire ? Obtenir de Monsieur de Clodieuse qu'il se rétracte. » La comtesse hocha la tête. « Je le tenterai inutilement, répondit-elle. Vous ne connaissez pas le comte, il est de fer. Vous lui arracheriez la chair lambeau par lambeau avec des tenailles rougies qu'il ne retirerait pas une seule de ses paroles. Vous ne pouvez concevoir tout ce qu'il a souffert, ni tout ce qu'il y a dans son âme de haine et de rage de vengeance. C'est pour me torturer qu'il m'a fait venir près de lui. Il n'y a pas 5 minutes encore, il me disait qu'il mourrait content puisque Jacques était reconnu coupable et condamné sur sa déposition. Elle était vaincue, son énergie faiblissait, des larmes mouillaient ses yeux. « Il a été si cruellement éprouvé, continuait-elle. Il m'aimait, lui, à l'adoration. Il n'aimait que moi au monde, et moi. Voilà l'adultère, cependant. Ah, si l'on savait, si l'on pouvait prévoir. Non, je n'obtiendrai jamais qu'il se rétracte. » Mademoiselle Denise oubliait presque sa propre douleur. « Aussi n'est-ce pas à vous de faire la démarche, madame, » dit-elle doucement. « À qui donc ?»« Au curé de Bréchy. Il saura trouver, lui, des paroles qui ébranlent les résolutions les plus fortes. Il parlera au nom de ce Dieu qui, mourant sur la croix, pardonnait à ses bourreaux. » Un instant encore, la comtesse hésita et, triomphant enfin des dernières révoltes de son orgueil, « Soit, dit-elle, je vais appeler le prêtre. » « Et moi, madame, je vous jure que je tiendrai ma promesse. » Mais la comtesse l'arrêta et avec un effort extraordinaire. « Non, prononça-t-elle, c'est sans condition que je vais essayer de sauver Jacques. Qu'il soit à vous. Aimez, vous vouliez lui sacrifier votre vie. Délaissé, je lui sacrifie mon honneur. Adieu. » Et courant à la porte pendant que mademoiselle Denise rejoignait ses amis, elle appela le curé de Bréchy.